France Culture.
Et les midis, deuxième partie, c'est reparti, dites donc. À tout à l'heure, comme promis, le réalisateur Stéphane Demoustier sera mon invité, mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Johnny Cash, Dolly Parton, Graham Parsons et bien sûr aujourd'hui Taylor Swift. La musique country est liée, dans son histoire comme dans sa géographie, aux racines des États-Unis. Aujourd'hui récupérée par la mode et le cinéma, la country reste un genre musical majeur outre-Atlantique et c'est le dossier du point culture du jour. Clovis Gou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous allez faire paraître aux éditions du Cherche Midi un essai qui s'appelle « Au cœur de la country, phénomènes et légendes ». Alors c'est un essai, mais c'est aussi un exercice d'admiration envers cette tradition profondément américaine. Quel a été pour vous le fil qui permet de raconter la country comme une tradition homogène de Johnny Cash à Taylor Swift?
Ben, en fait, moi, mon idée, c'était surtout de mettre en lumière un genre qui reste un peu méprisé, en fait. Parce que la country, c'est un peu comme la disco il y a des années. C'est un genre qui est victime des clichés autour. Elle est responsable, la country est responsable de ça, parce qu'elle véhicule une imagerie que tout le monde connaît, les chapeaux de cow-boy, les bottes de foin, etc. Mais je voulais montrer que, en fait, c'était une musique qui est vraiment à l'origine de beaucoup d'autres et qui est un genre d'une profondeur et d'une richesse qui est souvent mal connue. Et donc, moi, ce que je voulais montrer, c'est que ce genre est intrinsèquement lié déjà à l'histoire des États-Unis, mais aussi à l'histoire de l'immigration, puisque c'est un genre qui est... La country, en fait, elle naît dans les Appalaches, qui est une région montagneuse qui court du Canada jusqu'au sud des États-Unis. Et en fait, les pionniers de tout ça sont les immigrés irlandais qui sont venus dans leur... avec leur package à la fin du 19e siècle, avec un violon et des balades irlandaises. Mais tout ça va se fondre avec les autres immigrations. Et donc voilà, c'est une musique protéiforme et qui, en fait, est faite par, ce que je dis dans le livre, qui est faite par des humbles, pour les humbles.
Oui, c'est une idée assez forte, hein. Vous revenez beaucoup sur cette phrase. Est-ce que vous avez l'impression justement que cette idée, hein, que c'est une musique faite par et pour les humbles, c'est encore le cas aujourd'hui ?
C'est plus compliqué aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas dire que, par exemple, aujourd'hui, la plus grande star de la country est aussi la plus grande star internationale, c'est Taylor Swift. Mais est-ce que la musique de Taylor Swift est de la musique country aujourd'hui ? Je ne sais pas, c'est plutôt de la variété, je dirais. Mais c'est son origine, son background, elle l'a fait à Nashville. Elle a demandé à sa famille, parce qu'elle voulait devenir chanteuse, de partir à Nashville pour devenir une chanteuse country. Et parce qu'elle savait qu'aux États-Unis, c'est une des bases pour devenir célèbre, dans la musique, ça peut être, c'est ou le rap ou la country, en gros, hein, pour résumer grossièrement les choses.
Ce qui est intéressant avec vous parliez de Nashville et vous parliez des Appalaches au tout début, c'est que quand même quand on vous lit, on s'aperçoit que la country c'est aussi un paysage, hein. Vous traversez des lieux totems du Texas à Hollywood. Qu'est-ce que cette cartographie révèle du rapport de l'Amérique justement avec cette musique populaire ?
Eh ben, par exemple, il y a deux traditions. Il y a la tradition hillbilly qui vient des Appalaches. Disons que c'est vraiment, on peut résumer ça par les ploucs qui travaillent dans les mines, enfin les ouvriers. Enfin, et il y a la tradition du country western qui, elle, c'est la musique des cowboys. Et donc, les cowboys, en fait, ils n'avaient pas d'instruments avec eux, donc ils avaient juste leur voix. Et ils ont créé des balades parce qu'ils s'ennuyaient, ils traversaient des paysages désertiques toute la journée avec des troupeaux de vaches. Donc il fallait bien qu'ils s'occupent le soir au coin du feu. Donc c'est là qu'est née la tradition country western, en fait. Donc il y a vraiment un rapport intrinsèque entre le paysage, le travail et la musique.
Alors vous l'avez dit, c'est vrai, la country aujourd'hui est un peu récupérée, hein, que ce soit par la mode, par le cinéma, la pop. Est-ce que cette récupération vide, selon vous, la musique de son épaisseur historique, de ce que vous venez de rappeler là, ou au contraire, est-ce que ça lui donne une caisse de résonance plus large ?
Non, parce que y a des, parce qu'on va toujours aller chercher les racines des choses. Moi, c'est ce qui, dans le livre, c'est ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment c'était né, d'où ça venait et jusqu'où ça allait. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est récupéré parce que à cause de Taylor Swift ou à cause de Beyoncé qui a fait un album country pour revendiquer ses racines texanes, et parce que la country est un genre aux États-Unis qui est phénoménal.
C'est encore aujourd'hui, les gens écoutent de la country encore aujourd'hui.
Ah oui, c'est énorme, c'est l'équivalent du rap en fait, c'est aussi important. Et il y a des articles qui sont aussi vivaces, mais parce que nous, on n'a pas du tout cette culture-là. La culture country en France, elle se passe plus au niveau de la danse, où il y a dans les zones périphériques françaises, les gens se retrouvent pour faire du square dance, en fait, avec un chapeau de cow-boy et puis un t-shirt avec un coyote. Mais c'est moins lié à la musique, mais on retrouve l'idée de communauté, qui est quand même toujours très importante. C'est une musique qui fédère les communautés. C'est pour ça qu'elle aussi elle traverse les continents.
Vous évoquez l'imagerie, parfois un peu désuète, hein, qu'on a tous quand on pense à la country, les chemises à carreaux et les chapeaux de paille, enfin ce style un peu cow-boy. Est-ce que c'est une imagerie justement, une image d'Épinal, ou est-ce que c'est réellement la para qui accompagne aujourd'hui les fans et les chanteurs de country?
Ça l'est toujours, hein, ça le reste. Vous voyez, je sais pas, on peut penser comme Madonna l'a fait son album musique, qui a absolument rien à voir avec la country, mais elle a travaillé cette imagerie country western avec le chapeau de cowboy, les bottes de paille, etc. Enfin et les Santiago. Mais c'est comme, j'allais vous dire, le rocker imperfecto. Voilà, c'est du même ordre. Hein, mais ça, c'est un identifiant. Pour le public.
Peut-être un dernier mot avant de clore cet entretien, Clovis Gou. Dans votre conclusion, vous racontez quelle est pour vous la plus belle chanson du monde. Vous pouvez nous en dire deux mots? On est très curieux.
Ah ça c'est un peu subjectif, hein, mais c'est une chanson de Kris Kristofferson, donc qui est sur son premier album et qui s'appelle Sunday Morning Coming Down, et qui est vraiment une chanson sur quelqu'un qui a passé une nuit blanche, qui a bu énormément de whisky et qui se retrouve un dimanche matin à errer dans une rue et qui est complètement perdu parce qu'il a le cœur brisé. Et
c'est, mais en quoi, voilà, pour vous, c'est la plus belle du monde?
Parce que elle révèle ce sentiment d'étrangeté qu'on peut avoir quand on est perdu quelque part et que tout le monde a pu éprouver des moments de solitude extrême. Et qu'elle arrive à vraiment rendre prégnant cette chanson. Donc voilà, c'est pour moi. Et puis j'adore Kristofferson. Donc voilà, je voulais lui rendre hommage parce qu'il est décédé récemment. Voilà.
Bien, merci beaucoup, Clovis Gou. Je rappelle que votre ouvrage, Au cœur de la country, phénomène et légende, va paraître au Cherche Midi. Merci.
Merci à vous. On the Sunday morning wishing, Lord, that I was stoned. Cause there's something in a Sunday makes a body feel alone.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, Peter Watkins est décédé ce vendredi.
Oui, le réalisateur britannique s'est éteint en France à l'âge de 90 ans. Peter Watkins a produit au cours de sa carrière une œuvre cinématographique protéiforme. Quelques années après avoir quitté le Royaume-Uni pour fuir les pressions politiques, il réalisera son chef-d'œuvre, Edward Munch, La danse de la vie, un véritable ovni cinématographique qu'Ingmar Bergman qualifiera de travail de génie. En 1999, Peter Watkins tourne en France le film La Commune, Paris 1871, composé d'interviews faites par les journalistes de télévision. Lassé des attaques contre ses films, il décide d'arrêter sa carrière à la fin des années 90.
Et pour finir, Marie, la comédienne Dominique Blanc vient de rendre sa Légion d'honneur.
La 538e sociétaire de la Comédie française a indiqué dans une interview au journal L'Humanité avoir écrit à Emmanuel Macron pour lui rendre cette décoration qui lui avait été remise en 2014. Dominique Blanc justifie ce choix par la reconduction à 5 reprises de Rachida Dati au ministère de la Culture, alors que cette dernière est mise en cause dans 5 affaires judiciaires. En janvier dernier, le metteur en scène Joël Pommerat et la réalisatrice Marjane Satrapi avaient refusé de recevoir la Légion d'honneur, également pour des motifs politiques.
Merci Marie, on vous retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
À demain.